الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه. أما بعد، نواصل قراءة كتاب شرح منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ سليمان القصير حفظه الله. وما زلنا في كتاب الصيام، وبحمد الله قد ذكرنا كلام الشيخ في صيام التطوع، مثل صوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء وهكذا، وذكرنا كذلك كفارة الجماع في نهار رمضان. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق باختسام الورثة صيام شهرين متتابعين للميت، ويختلف العلماء لكن بعد تتبع وتحقق الأحوط والله تعالى أعلم، كما قال الشيخ بعدما تبين أنه لا يشترط أن يتولى الصيام عن الميت، يعني واحد فقط من أوليائه، لكنه قال بعد ذلك أما في كفارة الظهار أو كفارة الجماع، طيب لا يمكن أن يقتسم الورثة، يعني الصيام عن الميت لعدم التتبع، طيب لأن كل واحد منهم لم يصوم شهرين متتابعين. يقول الأحوط والأصح أن يكون واحد منهم فقط يصوم عنه هذين الشهرين. طيب concernant l'expiation de celui qui a un rapport charnel avec son épouse durant la journée de Ramadan. On a vu donc l'expiation, c'était Yassine. La première, donc la premièrement d'abord affranchir un esclave. طيب s'il peut pas, نعم مؤمنا نعم musulman, s'il ne peut pas jeûner deux mois consécutifs, et s'il ne peut pas nourrir 60 porcs. Et on avait vu donc que certains ulama avaient permis que plusieurs de ses proches ou ses héritiers jeûnent pour le mort, celui qui est mort, avant d'avoir pu rattraper ou faire cette expiation-là, pardon, de se partager les deux mois. Vous voyez, par exemple, il y en a un qui va faire 10 jours, l'autre 10 jours, etc., jusqu'à faire les 60 jours. Vous voyez, mais après étude des avis, etc., Allah a même l'avis le plus, on va dire, le plus sûr, le plus sécurisant pour la personne, et qu'une seule personne le fasse. Une seule personne le fasse, comme l'a dit Cheikh, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, parmi tant d'autres, qui a dit que ce n'était pas une condition, yani qu'il n'y ait qu'un seul proche qui jeûne les jours non jeûnés. Là, on ne parle pas de l'expiation, on parle des jeûnes en général. On a dit la personne qui, par exemple, n'a pas jeûné, taïeb, parce qu'elle était malade, puis elle a été guérie, alhamdulillah, et elle a laissé passer le temps jusqu'à ce qu'elle est décédée, elle n'a pas rattrapé tous ses jeûnes. Par exemple, elle avait encore 10 jours à rattraper, par exemple, on avait dit qu'il est permis que plusieurs personnes jeûnent pour lui ces 10 jours. Par exemple, si on prend 10 personnes qui vont jeûner le même jour, c'est bon. Vous voyez, ça, c'est valide. Par contre, concernant l'expiation, de Al-Jimar ici, on a vu que l'une des conditions, c'est 2 mois consécutifs. D'accord? C'est-à-dire 60 jours consécutifs qui se suivent l'un après l'autre. Ça y est? Il y a des savants qui ont permis ça. Ils ont dit oui, c'est possible que plusieurs personnes se partagent les 60 jours. D'autres ont dit non. Parce que parmi les conditions de la validité de l'expiation, c'est la continuité. Donc ils disent, vu s'il y a plus qu'une personne qui fait ça, il n'y aura pas ce tatabbou'. Quand tu réfléchis bien, c'est assez logique. Allahu a'lam, mais c'est la vie dans tous les cas le plus sécurisant. Hein, et par précaution, une seule personne jeûne ces 60 jours-là de manière consécutive, inshallah ta'ala. وهكذا نعم وكذلك الواجب على من جامع في نهار رمضان أن يبادر بالتوبة النصوح أولا يبادر بالتوبة النصوح مما ارتكبه من عظيم الإثم ألم به من فظيع الجناية فالواجب عليه أن يبادر بالكفارة كذلك الكفارة واجبة على الفور قال العلماء الكفارة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها لمن قدر عليها لا يجوز donc premièrement bien sûr celui qui a eu un rapport avec son épouse durant la journée de Ramadan il doit premièrement se dépêcher de se repentir déjà premièrement se repentir de ce péché très grave horrible c'est une infraction qui est grave La preuve, l'expiation, qui est une expiation aggravée. Hein? Affranchir un esclave, jeûner 2 mois, nourrir 60 pauvres, ce n'est pas n'importe quelle expiation, ça. Vous voyez? Donc on voit ici la gravité de la chose. Et bien sûr aussi, elle devra se dépêcher de justement faire l'expiation. Elle n'a pas le droit d'attendre, alors qu'elle peut faire l'expiation. Vous voyez? Au contraire, l'expiation, elle est obligatoire. Yani sur le moment. Par exemple, elle a commis l'acte, le jour même, si elle a la capacité d'affranchir un esclave, elle doit le faire le jour même. Ça y est? Si elle ne peut pas, donc elle devra jeûner 2 mois consécutifs, elle devra les faire juste après que yani, Ramadan soit terminé. Ça y est? Après, bien sûr, l'Eid. Ça y est? Donc la personne n'a pas le droit de retarder, sans excuse valable. ده لا يجوز طيب نعم ثم يقول وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15 رواه الترمذي والنسائي طيب فأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن ولفظ النسائي 3 أيام البيض في لفظ النسائي يقول 3 أيام البيض والبيض جمع أبيض جمع أبيض بيض والبيض وعليك السلام ورحمة وصف لليالي وصف لليالي لا للأيام في الحقيقة ولذا قال في الحديث 13 إلى آخر فهو وصف للمؤنث نعم هذا دليل فرق بين 13 و13 طيب 13 للمؤنث وللمذكر نقول 13 طيب هذا في أحكام الأعداد في اللغة وقال في الحديث 13 و14 و15 إذن هذه الأعداد وصف للمؤنث ويوم مذكر يوم إذن هو وصف للليالي الليلة الليالي فتسمى أيامها بيضا وذلك لأن لياليها بيض لطلوع القمر فيها من أول الليل إلى آخره، فكان الليل أبيض والنهار أبيض كذلك. كان الليل أبيض والنهار دائما أبيض نهار، لكن الليل كذلك أصبح أبيض. فتسميتها الأيام البيضة مع أن اليوم مذكر، إما لأنها مع لياليها بيض، أو على تقدير محذوف أي أيام الليالي البيض، تقدير أيام الليالي البيض. نعم. وصيام 3 أيام من كل شهر مسنون، أي مستحب مشروع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها. فعن معاذة العدوية رحمها الله قالت: سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ سألت، قالت عائشة: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي، لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. أخرجه مسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر في حديث أبي ذر هذا، وأوصى بعض أصحابه بصيامها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. أخرجه البخاري ومسلم. الله أكبر. Donc dit le Cheikh, voilà, on continue ici à mentionner les jeûnes facultatifs. D'accord. Donc parmi eux, il dit Abu Dharr, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de jeûner chaque mois 3 jours. 3 jours chaque mois. Puis il a cité le 13, le 14 et le 15. Rapporté par At-Tirmidhi wa Nasa'i. D'accord, hadith al-Hassan. Dans la version de An-Nasa'i, il dit Thalathata ayyam al-bidh, les 3 jours blancs. Les 3 jours blancs. D'accord, al-bidh, c'est le pluriel de abyad. Abyad, bidh. Donc les 3 jours blancs. Non. Mais il faut savoir en fait que al-bidh ici, c'est un adjectif, un qualificatif des nuits. En vérité. Quand on dit les jours blancs, ici, c'est les nuits blanches. D'accord, hein? Pourquoi la preuve? Parce que, pour ceux qui connaissent un peu les règles des nombres en arabe, hein, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, thalatha asharata, arba'a asharata, khamsa asharata. D'accord? Donc, ça, c'est la preuve que ces nombres-là servent à qualifier un mot qui est féminin. Féminin. Parce que la règle, c'est la règle. Quand le mot il est masculin, certains nombres, pas tous, mais certains, seront au féminin. Et inversement. Si le mot il est féminin, le nombre, il sera au masculin. Par exemple, al-qalam, c'est féminin ou masculin? Mudakka. Al-qalam. Hein? Du coup, dis-y. Le qalam, mudakkar. Maintenant, tu veux dire, par exemple, j'ai 5 stylos. J'ai 5 stylos. La daya, est-ce que tu vas dire khamsu ou khamsatu? Khamsatu. Parce que le mot, il est masculin, donc le nombre, il sera au féminin. Khamsatu, comment? On dit stylo au pluriel? J'ai même taquiné. Aqlam. D'ailleurs, 5 à tout, aqlamin. D'ailleurs, Si le mot maintenant il est féminin, c'est le contraire. Mathalan, sayyara, féminin, sayyara, une voiture. Pour dire, j'ai trois voitures, tu dis, la daya, comment dire, hein? Thala, thalathu. Thalathu. Le mot est féminin, on met le nom masculin, thalathu. Zid. Voiture au pluriel.
Ça y est, la tourne.
Sayyaratin. Sayyaratin. D'accord? Donc là, c'est pareil. Avec 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, c'est la même chose. Quand c'est le mot et le masculin, on mettra les unités là, au féminin et inversement. D'accord? Donc, yaoum en arabe, yaoum c'est muzakkar, yaoum. Un jour, c'est masculin. Donc, normalement, il aurait fallu qu'ils disent Thalathata Achar. Arba'ata Achar. Khamsata Achar. Mais il n'a pas dit ça, il a dit Thalatha Achara. Vous voyez? Donc, c'est la preuve qu'en fait, ces nombres-là servent à qualifier les nuits, Layla. Layla. Layla, c'est féminin. D'accord? Allahu a'lam. Donc, on a appelé ces jours-là des jours blancs. Des jours blancs. Pourquoi? Parce que les nuits de ces jours-là, yani, sont blanches. Car vous avez compris que c'est la pleine lune et que les nuits de pleine lune, la nuit, elle est blanche. Vous voyez? Car la lune, elle est claire, elle est manifeste. Elle est apparente. Du début de la nuit jusqu'à la fin de la nuit. Vous voyez? Donc, du coup, on a les jours, bien sûr, ils sont blancs. Les jours sont toujours blancs. Mais également les nuits. Donc, c'est comme si on avait 24 heures. Hein, de blancheur. Vous voyez? C'est pour ça qu'on les a appelés les jours blancs. Les jours blancs. Non. Voyez? Donc on les a appelés al-ayam al-bayd, les jours blancs. Soit parce que ils sont blancs avec leur nuit, ou soit parce que le sous-entendu, yani, ce sont les jours des nuits blanches. Les jours des nuits blanches et non les jours blancs. Hein? Les jours des nuits blanches. Quoi qu'il en soit, il dit donc, le jeûne de 3 jours par mois est une chose qui est recommandée, masnoun, c'est une sunna, alhamdoulillah, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc avait l'habitude de jeûner. Mu'adha al-Adawiyya, donc une femme parmi tabi'iyat, Rahimahullah, elle a posé la question à Aïcha, radiyallahu anha, est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait par mois 3 jours? Est-ce qu'il jeûnait 3 jours par mois? Elle a dit oui. Puis elle lui a dit, quels sont ces jours-là exactement? C'est quoi ces jours-là? Et Aïcha, elle a répondu, il ne faisait pas attention, yani, quel jour, lesquels, ou quels sont ces jours-là par mois, je ne faisais pas attention. Ça veut dire que ce n'était pas forcément tout le temps le 13, le 14 ou le 15. Ça pouvait être des autres jours que ces 3 jours-là. D'accord? 3 jours par mois. Peu importe ces jours-là. Donc le hadith authentique est rapporté par l'imam musulman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, dans le sens, yani, recommandé fortement, de jeûner 3 jours par mois en vertu du hadith de Abi Dhar, que l'on a évoqué. Il a recommandé donc à certains de ses compagnons de les jeûner, d'accord, clairement, comme l'a rapporté Abu Huraira, qui a dit, mon bien-aimé m'a recommandé 3 choses. La première, de jeûner 3 jours par mois. Donc encore une fois, ici, il n'a pas précisé quel jour. 3 jours par mois. Vous voyez? Ainsi que 2 unités de Ad-Duha, d'accord? Ainsi que le fait de faire al-witr, d'accord, de clôturer les prières, hein, par al-witr avant de dormir, avant de se coucher. C'est les 3 choses qu'il a recommandées à Abu Huraira. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit, il te suffit de jeûner 3 jours par mois. فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها. Et après, il a dit, et pour chaque hasana, pour chaque bonne action, eh bien, tu as 10 fois plus. C'est-à-dire que chaque bonne action, elle est multipliée par 10. C'est pour ça qu'il a dit après, فَإِنَّ ذَٰلِكَ سِيَامُ دَهْرِ كُلِّ. Et ceci sera pour toi, donc, un jeûne de الدهر. Et الدهر, dans la langue arabe, ça peut être السنة, l'année. L'année, il y a une année, d'accord, complète. De Muharram jusqu'à Dhul-Hijja. Et quand tu réfléchis, na'am, c'est ça. Quand tu jeûnes 3 jours par mois, les 3 jours multipliés par 10, ça fait 30. Donc ça fait, c'est comme si tu avais jeûné le mois entier. Donc si tu fais ça tous les mois, c'est comme si tu avais jeûné toute l'année. Subhanallah. T'as aimé que ça, hein, en jeûnant 3 jours par mois. Allez, est-ce que c'est quelque chose de lourd là? Pas du tout, 3 jours, subhanallah. T'as aimé. Et en plus, tu n'es pas obligé de jeûner les 13, 14, 15. Les ulama disent c'est mieux, 13, 14, 15, c'est mieux. Mais si tu veux jeûner les autres jours que cela, il n'y a pas de problème. Taïb, de là. Et ça sera compté comme étant donc les 3 jours par mois. Taïb. Wa naha an siyami yawmay. Yawm al-fitri wa yawm al-nahr. Muttafaqun alayhi. Al-an, inshallah, nashra fi dhikri al-siyam al-mamnu'a. طيب يقول أخرجه البخاري ومسلم ولفظ له من حديث أبي سعيد الخدري يوم النحر هو يوم عيد الأضحى وصيام هذين اليومين حرام ولا يصح حرام ولا يصح. Donc là on va commencer à évoquer les jeûnes qui sont interdits. Il y a des jours où il est interdit de jeûner. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner 2 jours. Le jour de la rupture, la rupture du jeûne, al-fitr, et le jour de al-nahr, le sacrifice. Le hadith rapporté par al-Bukhari muslim, voyez, selon Abi Sa'id al-Khudri. Donc le jour de sacrifice, bien sûr, c'est le jour de l'Eid, de al-Adha. Voyez. Et donc le jeûne de ces 2 jours-là, il est interdit. Celui qui jeûne volontairement ces 2 jours-là, non seulement il a commis un péché, et en plus son jeûne il n'est pas valide. Là, il y a ça. D'accord? Non. Thumma yaqul. Wa qala ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jal rawahu muslim. Akhrajahu muslim hadithi Nubayshat al-Hudhali radiyallahu anhu. Ayyamu tashriqi هي الحادي عشرة والثاني عشرة والثالث عشرة من ذي الحجة والحديث دليل على أنه يحرم صيامها إلا أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها لمن عليه هدي من الحجاج هذا استثناء طيب الحجاج منهم من عليه هدي ولم يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج فيجوز أن تكون فيها لحديث عائشة وابن عمر قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا أو أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي أخرجه البخاري. طيب وقال يدي للبروفيت صلى الله عليه وسلم parmi les jeunes qui sont interdits de jeûner de faire les jours de At-Tashriq. Hein, les jours de At-Tashriq, dit le prophète, ce sont des jours de manger, de boire et de rappel, d'invocation, de rappel, d'invocation d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Nubayshata al-Hudhali, radiyallahu anhu. Donc les jours de At-Tashriq, ce sont, comme vous savez, 11, 12, 13. De quel mois? De Dhul-Hijjah. Hein, le 10 c'est l'Eid, puis on a Ayyam Tashriq, 11, 12, 13, Ayyam, pendant lesquels il est interdit de jeûner. Pourquoi on les appelle Ayyam Tashriq, hein? Pourquoi on appelle ces jours-là Ayyam Tashriq? Naam. Le Tashriq, l'Ahm, l'Yajif, Tahta Shems. Ayyam, Parce que le verbe charraqa, le charriqu, c'est le fait de découper la viande du sacrifice. Tu découpes la viande, charraqa, tu la découpes en morceaux, puis qu'est-ce que tu fais avant de la consommer? Tu la fais sécher. D'accord? Tu la fais sécher. Donc c'est les jours où on fait sécher cette viande-là, on l'a découpée, on l'a fait sécher au soleil. Taillé. Cet acte-là, on l'appelle tashriq. Charraqa yusharriqu. C'est pour ça qu'on appelle ces jours-là ayam tashriq par rapport à la viande qu'on fait sécher, qu'on découpe et qu'on fait sécher. Donc 11, 12, 13. Donc là, on dit, il dit el-hadi achar wa thani achar. Pourquoi on n'a pas dit el-hadiyata achar wa thaniyata achar wa thalitha achar? Alors que yom, on a dit yom, c'est masculin. On n'applique pas ici la règle. Ici. Hein? On n'applique pas la règle. Quand c'est. Nous, on parlait de. Il y en a 3, 4, 5, les nombres numéraires. 3, 4, 5, puis 13, 14, 15. Mais concernant les nombres. Je ne sais plus comment on dit en français. Il y en a premier, deuxième, troisième. Comment on dit en français? Quatrième, cinquième, sixième, etc. Bref, vous m'avez compris, tout ce qui est. Hein? Non, mais il y a un nom spécial. Tu vois, quand tu. Le premier, le deuxième, le troisième, le quinzième, le vingtième, dans ce cas-là, on n'applique pas cette règle ici. Quand le mot il est masculin, on va utiliser le masculin aussi. D'accord? On va dire Al-Hadi Aja. Al-Yawm, Al-Hadi Aja. Al-Bab, Al-Thalitha Aja. Al-Bab, Bab Muzakkar. طيب. Donc le hadith est la preuve qu'il est interdit de jeûner ces 3 jours-là, sauf exception faite pour yani, le pèlerin qui doit sacrifier une offrande et qui n'a pas trouvé d'offrande. Le pèlerin, celui qui est en mode mutamatti' ou qarin. D'accord? Celui qui est mutamatti' ou qarin, il se doit de sacrifier une bête, un hadi. Mais ce hadi, s'il ne l'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il doit jeûner 10 jours. 3 jours, il y a un fil hajj, et 7 jours à son retour. D'accord? Ça, on verra en détail quand on étudiera le pèlerinage, inshallah. Donc, ces 3 jours-là, qu'il doit jeûner pendant le pèlerinage, il lui est permis de les jeûner pendant ces jours de tashriq, ayyam tashriq. C'est la seule exception. C'est lui, c'est tout. Personne d'autre, sinon, à part lui, dans le droit de les jeûner. D'ailleurs, comme l'a dit Aïcha et Ibn Omar, qui ont dit qu'il n'est pas permis de jeûner le jour de Tashriq, taïeb, sauf celui qui n'a pas trouvé de hadi. L'offrande, encore une fois, concernant el-mutamatti' et el-qarin parmi les pèlerins. D'accord? يقول قال ولا يصومن احدكم يوم الجمعه يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وهذا الحديث يفيد كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وأما إذا صام معه يوم الخميس أو السبت فلا بأس فلا بأس Donc il dit ici, le prophète صلى الله عليه وسلم ne jeûnez pas le vendredi, sauf si vous jeûnez un jour avant ou un jour après. Hadith chez Bukhari et Muslim, selon Abi Hurayra. Donc ce hadith montre ici le fait qu'il est détestable, le fait qu'il est détestable de jeûner le vendredi uniquement et de ne pas jeûner un jour avant ou un jour après. Cela est détestable. Quant à celui qui jeûne le jeudi avec le vendredi, la baisse. Ou celui qui jeûne le samedi avec le vendredi, la baisse. Et là, on voit que l'avis, on va dire, le plus correct et juste concernant le jeûne du samedi, et qu'il est permis de jeûner samedi. Il est permis de jeûner samedi. La preuve, ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais recommandé de jeûner un jour après le vendredi. Si c'était interdit. Ça y est, donc ça prouve bien que jeûner samedi est permis, il n'y a pas de problème. D'accord? Non. Également, celui, par exemple, qui jeûne Siyam Daoud. Hein? Le meilleur jeûne auprès d'Allah, Siyam Daoud. Taïeb. Celui qui jeûne un jour sur deux, du coup, forcément, il va arriver un moment où il va jeûner vendredi tout seul. C'est obligé. Dans ce cas, lui, précis, c'est permis. Il n'y a pas de. C'est pas détestable. Parce que lui, il n'a pas jeûné vendredi pour vendredi. Il a jeûné parce qu'il fait un jour sur deux. Donc, forcément, une semaine sur deux, il va tomber sur que le vendredi. D'accord? Donc, lui, il n'est pas concerné également par la détestation ici dans ce hadith. Non. فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وقوله إيمانا واحتسابا أي مؤمنا إيمانا بمعنى مؤمنا بالله جل وعلا ومصدقا بأنه تقرب إلى الله ومحتسبا معناه بما فعله عند الله أجرا محتسبا أجرا لم يقصد به غير ذلك لم يقصد به ثناء الناس عليه مثلا وهكذا Puis dit le prophète صلى الله عليه وسلم Celui qui jeûne Ramadan avec foi et ihtisab, et espoir, yani de la récompense. Il lui est pardonné ce qu'il a fait comme péché, yani dans le passé. Et celui qui prie la nuit de Al-Qadr, du destin, avec foi et espoir de la récompense, il lui est pardonné ses péchés antérieurs. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira. Donc la parole ici, iman ou ihtisab, ça veut dire quoi? Avec foi et ihtisab. Avec foi, c'est-à-dire bien sûr en croyant en Allah, en ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et en ayant la certitude que ce jeûne, d'accord, rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman billah, wa al-iman bi anna hadha yuqarribuhu ila Allah. Et muhtasiban, c'est-à-dire qu'il attends, faisant cela, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il désire en jeûnant hein, Ramadan, il désire la récompense d'Allah. Et rien d'autre. D'accord? Et rien d'autre. Donc on a ici l'iman et on a aussi l'ikhlas. Hein? L'ikhlas. Ihtisaban, ça désigne en vérité la sincérité pour Allah. Je fais ça pour Allah, tabarak wa ta'ala, et rien d'autre. Taïb, alhamdulillah. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعده متفق عليه فأخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة والاعتكاف ما هو الاعتكاف؟ هو لزوم المسجد لطاعة الله الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى وهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان من كل عام وتبدأ العشر من غروب الشمس تبدأ العشر متى؟ من غروب الشمس ليلة 21 ليلة 21 إلى غروب الشمس ليلة العيد وفيه جواز اعتكاف النساء إذا أمنت الفتنة لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في مسجده بعد وفاته ولم ينكر عليهن أحد من الصحابة فكان إجماعا منهم على جوازه وقد ذكر الله تعالى الاعتكاف في القرآن فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد والآية دليل على صحة الاعتكاف في كل مسجد في كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة وعلى تحريم الجماع ومقدماته حال الاعتكاف Puis il dit ici que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait ce qu'on appelle l'i'tikaf, la retraite pieuse, la retraite dans la mosquée pendant les 10 derniers jours de Ramadan, jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala les rappelé à lui. Et il faut savoir aussi qu'après sa mort, ses épouses ont fait pareil. Ses épouses ont également fait l'i'tikaf à la mosquée après sa mort. Muttafaqun alayh. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha. Donc l'i'tikaf, si on te demande qu'est-ce que l'i'tikaf, tout simplement, le fait de rester à la mosquée, à l'intérieur de la mosquée, pour adorer Allah. Hein, pour te consacrer uniquement à l'adoration d'Allah, tabarak wa ta'ala, pas autre chose. Le fait de se couper du monde, se couper du monde extérieur, d'accord, de ta famille, etc., etc., tes proches, tes amis, de la vie de la dunya, pour adorer Allah dans la mosquée. Et tu restes dans la mosquée, tu ne sors pas de la mosquée. Sauf nécessité absolue. D'accord? Non. Donc ce hadith nous montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été assidu dans l'i'tikaf, dans la mosquée, durant les 10 derniers jours de Ramadan. Et il a fait ça chaque année. Mais à quel moment commencent les 10 derniers jours? Chaque année, les questions reviennent, les mêmes questions. À quel moment ça commence, les 10 derniers jours du Ramadan, exactement? Ça commence le 9, le 10, le 11. Ça commence quand? Parce que le mois, il peut durer 29, il peut durer 30. Du coup, on fait comment? Année, la réponse est la même. Elle est simple. Les 10 derniers jours, ils commencent à partir de Al-Maghrib, du coucher du soleil. Al-Maghrib, le 11. D'accord? La nuit du 11. La nuit du 11. Commence les 10 premiers jours de Ramadan. Pardon. La nuit du 21. Ça veut dire que le 20 de la journée, tu jeûnes. Au Maghrib, après le 20, là, c'est la nuit du 21. À ce moment-là, commence les 10 derniers jours. D'accord? Donc, retenez bien la nuit du 21. D'accord? Jusqu'à quand? Tout simplement jusqu'au Maghrib de la nuit de l'Eid. La nuit qui précède l'Eid, les 10 jours sont terminés. D'accord? Non. Donc du coup, si le mois il fait 29, en vérité, il n'y a pas 10 jours, il n'y aura que 9 jours. Si le mois il fait 30, il y aura 10 jours. D'accord? Parce que tu auras fait l'i'tikaf le 22, le 23, le 24, le 25. Le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 22. Si le mois est fait 29 jours, tu auras fait la retraite pendant 9 jours. D'accord? Et s'il fait 30 jours, tu auras fait 10 jours. Alhamdulillah. Ça y est? Wa hakadha. Et il y a en cela aussi la permission pour les femmes de faire l'i'tikaf. Les femmes aussi peuvent faire l'i'tikaf lorsque, bien sûr, il y a, il n'y a pas de risque de fitna dans la mosquée. Ouais. Mais sinon, c'est permis. Parce que les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont fait l'i'tikaf dans sa mosquée, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, et aucun compagnon n'a condamné cela ou n'a réprouvé cette chose-là. Donc les femmes ont aussi le droit de faire l'i'tikaf. Et il y a donc un consensus chez les compagnons sur cette mas'ala. Et Allah tabarak wa ta'ala a parlé de l'i'tikaf dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, lorsqu'il a dit, dans le sens rapproché, et ne cohabitez pas avec elle, la tubashiruhunna, c'est-à-dire ne les touchez pas, n'ayez pas de rapport avec elle, avec vos femmes, alors que vous êtes en train de faire l'i'tikaf. Dans les mosquées. D'accord? Donc ce verset, c'est la preuve également que l'i'tikaf, il est permis et il est valide dans toute mosquée. Pas seulement yani, la mosquée yani, la sacrée ou la mosquée de Al-Médina ou la mosquée de l'Aqsa. L'i'tikaf, tu peux la faire dans n'importe quelle mosquée. Alhamdulillah. Les mosquées, bien sûr, qui ont le jugement de mosquée, d'accord, dans lequel, bien sûr, on fait la salat al-jama'a, al-jumu'a, etc. D'accord? Et l'avis le plus correct est que l'endroit doit appartenir aux musulmans. Doit appartenir aux musulmans. D'accord? Donc, les ulama disent que les musallayat, les salles de prière, mais qui ne sont pas des mosquées, des salles de prière. C'est juste des salles de prière. Comme par exemple, des fois, les instituts de langue arabe, etc., dans lesquels on peut faire les cinq prières, mais ce ne sont pas des mosquées. D'accord? D'autres endroits qui ne sont pas des mosquées ou qui n'appartiennent pas aux musulmans, dans ce cas-là, on ne pourra pas faire l'itikaf dans ces endroits-là. D'accord? Al-Baqarah, 187. Et également, ce verset-là prouve. Non.
Mais c'est ça veut dire qu'il faut aussi dormir dans la mosquée ou se lever ou toute la journée.
J'ai pas compris.
Comment vous dites qu'il faut rester dans la mosquée tout le temps? C'est-à-dire dormir aussi ou juste passer toute la journée jusqu'à.
Si tu passes la nuit dans la mosquée, tu peux dormir là. Hein? L'étiquette. Si toi tu rentres à la mosquée et tu avais l'intention de faire par exemple 3 jours à la mosquée. 3 jours. Les ulama disent il n'y a pas de limitation au niveau des jours. Ni minimum ni maximum. Tu peux y aller pour 2 heures. Je vais à l'étiquette de 2 heures. L'étiquette de 1 heure. Tu vois? Comme tu peux mettre une étiquette de 1 semaine. D'accord? C'est toi qui décides. Forcément. Si tu dors pas pendant 1 semaine, c'est compliqué. Vous voyez?
Et qu'on fasse les mêmes, qu'on fasse 2 heures ou une semaine.
Ah, c'est logique. Plus tu fais. Sinon, on fait tous 5 minutes, c'est bon. Comme si on avait fait un mois. Là. Celui qui fait un mois, c'est pas comme si il avait fait 2 jours. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ou sahih. Non, pour finir, ce verset-là est la preuve qu'il est interdit aussi d'avoir des rapports avec ses épouses ou même les muqaddimat, c'est-à-dire les bisous, les câlins, etc. C'est interdit pour al-mu'takif. Al-mu'takif, celui qui fait l'i'tikaf, il n'a pas le droit non plus, pendant son i'tikaf, de faire ça. D'accord? Non. Et bien sûr, on ne parle pas de la mosquée, parce que la mosquée, c'est interdit toute l'année. Hein. C'est pas que pendant l'i'tikaf. La mosquée, c'est interdit toute l'année. Là, on parle, celui qui sort de la mosquée, il va chez lui pour la yajouz. S'il fait ça, il aura annulé son i'tikaf. D'accord? وصحيح كذلك قال الشيخ سعدي عدم استحباب نية الاعتكاف لمن دخل المسجد أي قبل أن يدخل المسجد يعني لا لم يجب أن ينوي الداخل الاعتكاف قد ينوي في المسجد داخل المسجد مثلا دخل ثم يعني نوى الاعتكاف بعد الدخول هذا يجوز ما في بأس طيب لعدم ورود الدليل عليه et il n'est pas obligatoire non plus d'émettre l'intention avant d'entrer dans la mosquée. C'est pas obligatoire. Vous voyez, certains disent faut que tu mettes l'intention de l'étiquette avant de poser le pied dans la mosquée. Non. Tu peux rentrer dans la mosquée, t'avais pas l'intention à la base de faire l'étiquette et d'un coup, t'es là, t'es dans la mosquée et tu décides de faire l'étiquette pendant 24 heures. 24 heures, tu es à la mosquée, tu as le droit. D'accord, c'est pas obligé de mettre l'intention avant d'entrer. Tu peux la mettre après. Alhamdulillah, parce qu'il n'y a pas, y a pas vraiment de preuve claire à ce sujet-là. Non. Ça y est? إن شاء الله نكتفي بهذا نترك هذا للأسبوع المقبل بإذن الله وسندخل كذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى وبعد كتاب الحج إن شاء الله تمتحنون ها ستمتحنون بعد الفراغ من كتاب الحج ان شاء الله تعالى دونك باسخا لا سيم بروشين On finira dans le kitab Siyam, puis on passera dans le chapitre du pèlerinage. D'accord? Donc là, attention les frères, on a étudié quand même des chapitres, super techniques, beaucoup détaillés, beaucoup de détails, beaucoup de choses à apprendre, à mémoriser. Vous voyez? On a fait quoi? Kitab Az-Zakat, après le premier examen. Le premier examen, c'était quoi? C'était le Muqaddima wa Tahara et Salat. Il y avait Salat Janaïs, c'était compris dedans. Dans le premier. Il n'y avait pas le Janaïs?
Non.
T'es sûr? Hein? Il n'y a pas le Janaïs? Dans le Mtihan. On n'a pas pris en compte? Taïe. Donc, du coup, dans le deuxième, dans le prochain Mtihan, il y aura. Kitab Janaïs, d'accord, bon, qui est quand même, ça va, il est court, mais quand même, il y a des choses à apprendre. Kitab Zakat, celui-là, il est vraiment, il y a à revenir dessus. Kitab Zakat, avec tous les maqadir, les nisab et tout, vous voyez. Kitab Zakat, Kitab Siyam, on a vu Kitab Siyam, il y a des choses aussi. Kitab Al-Hajj, d'accord, donc là, il sera vraiment costaud, là. L'examen sera vraiment costaud, donc je vous conseille de réviser yani, au fur et à mesure. N'attendez pas que l'imtihan soit là pour réviser. Revoyez vos notes dès maintenant, Inch'Allah. Et là, on voit l'importance aussi de prendre des notes. C'est celui qui n'a pas pris de notes, hein? Surtout Kitab Zakat, comment il fait pour revenir hein? au Nisab? Concernant les bêtes, concernant l'or et l'argent, concernant ce qui sort de terre, concernant le commerce, concernant comment il va faire. Il sera obligé de revenir aux audios. D'accord, il y a les audios, si vous voulez, il y a les audios dans le blog, Inch'Allah, qui sont classés, par ordre, vous pourrez les écouter. Ouais, concernant ces cours, oui, tu peux retrouver, donc, de Kitab Janaza jusqu'au dernier, tu les as, Inch'Allah. Mais le problème, c'est que le cours, il fait une heure. Donc, imagine, il y a je ne sais pas combien de cours. Ça prend du temps, tu vois. Alors que si tu écris, tu n'as pas besoin de réécouter. Tu prends juste des notes, ça prend quelques minutes, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il quitte là-bas. Des notes dans le téléphone ou sur des feuilles ou quoi, mais ça sera toujours mieux que de revenir aux audios. D'ailleurs, on va là. Non. Inch'Allah yakfi lilyoum Inch'Allah ta'ala Allah ta'ala a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa ikhwanihi ila yawmiddin